Je voudrais lire un texte, Matthieu 26, 36. Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémané. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. » Restez ici éveillés avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, ô Père, si tu le veux, écarte-moi cette coupe. Toutefois que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Je lis ce texte qui suit l'ordre chronologique de ce que nous venons de vivre, la veille de sa mort sur la croix. Jésus a chanté des psaumes avec ses disciples. Il a partagé la scène. Il a vécu un moment intense de communion fraternelle, de vie avec Dieu, et il s'est retrouvé dans ce moment-là qu'on vient de lire. Après, on aurait pu dire qu'il est reboosté, il se retrouve complètement découragé. Et le titre de mon message ce matin, c'est vraiment « Combattre le découragement ». Alors, il y a des chrétiens qui pensent qu'on ne peut pas dire qu'on est découragé. Alors, ça veut dire qu'on pense qu'on n'est pas humain. Le découragement, c'est arrivé à chacun d'entre nous et survient régulièrement dans nos vies, plus ou moins fort, de manière variable, pas forcément en lien avec l'importance des problèmes que nous vivons. Je pourrais juste partager que hier soir, j'avais quelqu'un de ma famille qu'on avait invité pour la soirée et il remettait tout en cause, tout ce qui pour moi est fondamental dans notre foi. Je ne dirais pas qu'il perdait la foi, mais tout ce qui est fondamental pour moi, il le remettait en cause, avec des choses pour lesquelles, je peux dire, on s'est battu depuis des centaines d'années, depuis la réforme. Et j'étais comme accablé d'une sorte de tristesse, parce que je ne voyais pas comment on pouvait lutter contre ça. Et puis, juste avant de me coucher, j'ai eu deux mauvaises nouvelles de gens qui n'allaient pas bien dans leur santé. Et j'avais ce sentiment de découragement. Donc il est jamais loin, il peut arriver rapidement. Et je crois que c'est important de ne pas l'oublier. Ce sont des choses qui font partie de notre vie. Je voudrais vous lire en lien avec ça quelques versets d'un haut fonctionnaire juif en 446 avant Jésus-Christ, qui s'appelle Néhémie, qui était au service d'un empereur médo-perse, et qui apprend que Jérusalem a ses murailles complètement détruites, à plein d'endroits, que la ville n'est plus protégée. Et dans ce texte de Néhémie, on voit cette occasion. À partir du moment où il l'apprend jusqu'à la fin de la reconstruction, cette occasion qui l'ont conduit au découragement, ou qui ont pu le conduire au découragement. La première, c'est tout au début, Néhémie 1.4, « Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restai abattu. » Et ensuite, il repart reconstruire. La deuxième occasion, c'est au chapitre 2, verset 19 de Néhémie, « Lorsque Sambala, c'est vraiment l'ennemi durant tout ce temps, apprend que le peuple a décidé la reconstruction, il se moque d'eux et les méprise. Deuxième occasion de découragement. La troisième, c'est de nouveau marqué « lorsque Sambala », toujours le même, apprend que les travaux ont commencé, il se met en colère contre eux. La quatrième, lorsque Sambala, de nouveau lui, apprend que les brèches commencent à être fermées, il se met en colère et décide de les attaquer. Donc, quatrième occasion. Néhémie 5.1, à cette époque, des hommes du peuple et leurs femmes se plaignirent vivement de certains de leurs compatriotes juifs. En effet, il y avait eu des temps difficiles, et une partie pour avoir de l'argent, pour pouvoir manger à leur faim, avaient prêté sur gage un peu leurs champs, avaient mis des hypothèques, et comme ils ne pouvaient pas rembourser, leurs compatriotes avaient carrément piqué leurs champs, piqué leurs maisons, piqué leurs filles pour être leurs servantes, etc. Et c'était une situation catastrophique. Catastrophique parce que il y avait vraiment une injustice sociale et de la corruption au sein même du peuple. Et la sixième occasion de découragement, Néhémie 6.1, lorsque Sambala, ça recommence toujours pareil, hein, apprit que tout était fait, sauf les portes, tout était reconstruit dans la muraille, il cherche à faire peur et il va mettre en place des rumeurs, des fake news, on dirait maintenant. Et la septième, il dit « Je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaïa, petit-fils de Métabéel, qui s'était barricadé chez lui. » Il y a un responsable spirituel, Shemaïa, qui va dire à Néhémie « Tu sais, ils cherchent à t'attaquer, ils vont venir t'attaquer, ils vont te prendre, ils vont peut-être te tuer, va te barricader dans le temple, là tu seras protégé. » Néhémie lui répondit « Qui suis-je pour entrer dans le temple sans être souverain sacrificateur, sans que ce soit le bon moment ?» Et c'est un piège spirituel qui lui est proposé là, pour lui faire faire une faute spirituelle. Donc vous voyez que quand le découragement est là, il y a plein d'occasions différentes. Rien que sur un temps comme ça de construction, dans le temps de Néhémie, on voit plein d'occasions. On va réfléchir un peu aux causes du découragement. Une des premières causes, c'est la fatigue. Nous ne sommes pas que des êtres spirituels, je vous apprends ça ce matin. Nous sommes des êtres humains. Et nous pouvons être fatigués. Et nous avons le droit d'être fatigués. Lorsque vous êtes physiquement ou émotionnellement exténué, vous êtes un bon candidat au découragement. Quand vous êtes au milieu de la nuit, il est 2h du matin, que vous réfléchissez à un problème, je vous assure que le problème est décourageant. Quand la lumière sera levée à 7h du matin, ça ne sera plus le même problème. C'est normal. Quand vous êtes submergé par votre travail et que vous ne savez même pas par quoi commencer, quand les urgences s'accumulent, qu'on ne sait plus par quel bout les prendre, que les choses importantes, vous n'arrivez même plus à les faire, le burn-out n'est pas loin, les amis. On se sent incapable de supporter la charge. Néhémie et son équipe, quand ils construisaient la muraille de Jérusalem, ont vraiment connu cela. Ils devaient garder le chantier nuit et jour, ou jour et nuit, comme vous voulez. C'est Néhémie 4, versets 15 à 17. Et la fatigue arrive à la quatrième tentative de découragement. Je vous en ai donné 7 pour Néhémie au chapitre 4. C'est la quatrième tentative, et là, il y a vraiment la fatigue. Ils travaillent nuit et jour. Il y en a des équipes qui travaillent le matin, enfin la journée, d'autres qui veillent la nuit. Il est dit, je vous lis littéralement, « Ni moi, ni mes proches, c'est Néhémie qui parle. Nous ne quittions nos vêtements, chacun gardait ses armes à portée de main. » Mais Jésus aussi était fatigué. La fatigue des foules à soigner, des foules qui le harcelaient, qui le pressaient. Jésus est un être humain aussi, 100% homme, 100% Dieu. Mais le 100% homme, quand les foules vous pressent, vous êtes fatigué. Ça use votre énergie. Fatigué de nourrir et d'enseigner ces foules. Fatigué des querelles entre ses disciples. Qui est le plus grand? Tellement fatigué qu'il est capable de s'endormir dans un bateau au cours d'une tempête. La deuxième cause de découragement, c'est la critique. La critique qui décourage. Parfois, c'est juste une remarque, pas forcément méchante, mais la remarque qui vous plombe, vous savez. C'est vraiment pas terrible, ton truc-là. Ou c'est toujours pareil avec toi. C'est ce genre de remarque qui vous décourage. Parfois, c'est un regard, un geste de dépit, une moquerie, un petit truc. Il suffit pas grand-chose. Néhémie 2, 19. « Ils se moquèrent de nous et vinrent nous dire d'un ton méprisant, je vous cite, « Qu'êtes-vous en train de faire ?» Ils sont en train de reconstruire la muraille. « Qu'êtes-vous en train de faire ?» Allez. Un peu plus loin, chapitre 3, verset 35. « Ils n'ont qu'à bâtir. Si un renard s'élance contre leur muraille de pierre, il la brisera. » Mépris total pour leur travail. Votre travail vaut rien. Même un renard, en s'élançant dessus, va être capable de briser cette muraille. Même cause pour Jésus, la critique. La critique de ses propres disciples sur son projet de mourir. Ils n'en veulent pas, les disciples. Il est venu pour ça. Et ses propres disciples n'en veulent pas. Critique sur l'argent qui n'est pas donné aux pauvres, mais qui est utilisé pour être mis sur ses pieds par un parfum de grand, prix. Mais critique des religieux, critique des autorités. Les critiques se concentrent sans arrêt sur Jésus. La troisième cause de découragement, la peur. La peur est très fréquente derrière le découragement. La peur face à la maladie, et celle est normale. La peur de souffrir, la peur de mourir, de perdre son autonomie, tout ce que vous voulez. Mais la peur face à l'échec d'un projet, la peur des conséquences financières, la peur pour notre image. Tellement de raisons qui peuvent vraiment donner du découragement. Au temps de Néhémie, face à la menace d'une attaque de la part des ennemis, le résultat est vraiment le découragement. Cependant, Judas disait, c'est chapitre 4, verset 4, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pouvons pas bâtir la muraille. » La peur est là, on n'y arrivera pas. On n'est juste pas capable. Et la quatrième cause, c'est l'échec. On a tant travaillé à ce projet, à la fin c'est un échec. C'est échec dans mon travail, échec avec mes enfants, échec dans ma vie de couple, échec dans ma santé, échec sur mon parcours de vie, sur mes projets de vie. Tant de moyens d'être en échec dans notre vie. Pour Néhémie, c'est un échec collectif. Quand il vient visiter Jérusalem, il voit les gens qui sont là, puis il constate l'échec. Ils sont là, ils habitent là. Personne n'était capable de réparer ces trous dans la muraille. C'est un échec. Échec quand ils n'arrivent même plus à se déshabiller pour dormir et qu'ils sont pressés de toutes parts. Échec quand les ennemis sont prêts à les attaquer. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on s'est planté pour avoir des ennemis pareils? Au chapitre 5, c'est la zizanie dans le peuple, les abus, l'échec de la vie ensemble, parce qu'il y en a qui profitent les uns des autres. Et on va dire, est-ce que Jésus a vraiment été découragé? Et ça, c'est une question, je pense, qui est importante. Jésus a vécu les quatre types de causes de découragement. Il était, je vous rappelle, pleinement homme et on peut vraiment dire que Jésus lui a été aussi découragé. Je vous lis ce verset, Jean 13, 21. Jésus fut troublé en son esprit et fit cette déclaration. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. C'est son dernier repas. Il est avec ses disciples, ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a aimés, ceux qu'il a enseignés. Et il y en a un d'eux qui va le trahir et le livrer. Il est profondément troublé. Je vous lis cet autre verset. Jean 12, 27, juste un peu avant. C'est juste après la fête des rameaux. Il est en train d'expliquer qu'il va devoir mourir. Il dit « Maintenant, mon âme est troublée en face de cette idée de la mort. Il est troublé car un choix s'offre à lui. » Il est troublé, c'est le mot taraso en grec. C'est le verbe est vraiment fort, il parle de révulsion, d'horreur, d'angoisse et d'agitation. C'est un mot extrêmement fort. Le mot troublé est léger, comme il est traduit en français. C'est beaucoup plus fort que ça. Il a une sorte de révulsion devant ce qu'il attend, d'angoisse majeure. Puis au jardin de Gethsémané, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure, il a une profonde angoisse. Il commence à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse se saisit. Alors il leur dit « Je suis accablé de tristesse à en mourir ». Jésus est troublé, il est angoissé parce qu'il a un choix, je vous ai dit tout à l'heure. Il est face à deux choix possibles ou dans un premier temps peut-être deux sentiments contraires. D'un côté, il y a l'horreur de la mort qui est là et qui prédomine. Et de l'autre, il y a le désir d'obéissance à son Père. Et ce double choix est vraiment très compliqué. Ce double choix est vraiment difficile. Et son trouble et son angoisse étaient suscités par la tentation de céder au désespoir et de ne pas accomplir sa mission. Par la tentation de refuser la mort, de ne pas aller au bout. D'un côté son désir de vie et de l'autre la volonté de Dieu. Et quand Jésus arrive à Gethsémané, son horizon est complètement bouché. Rétréci, il ne voit plus la résurrection, mais il voit seulement la mort. C'est son horizon bute sur la mort. Et une des causes majeures de notre découragement, c'est que notre horizon s'est bouché, il n'y a plus d'issue visible. C'est comme un tunnel, un trou noir. Si pour Jésus, l'horizon, c'est la mort qui va venir devant lui, la mort qui est là pour demain, hein, parce que quand il est tellement troublé, c'est juste la veille aussi. Pour Néhémie, c'est la montagne de boulot qui reste à faire. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. C'est juste pas possible. Et la tentation, c'est vraiment ne pas affronter le mur, ne pas affronter la muraille, pas affronter la montagne, et dire comme Jésus, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ça, c'est la tentation. Le péché, ça serait refuser de l'affronter et s'en détourner. Jésus n'a pas connu de péché, mais il a été tenté. Hébreux 4,15 nous dit, il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Il a eu cette tentation de refuser le projet de Dieu. Cette tentation de dire, moi je veux vivre. Moi je veux vivre ma vie, comme tous les hommes. Et en conséquence, je dirais, son trouble, son découragement, c'est une réaction juste, elle est appropriée face à l'extraordinaire épreuve qui arrive pour lui. La pensée démoniaque, c'est montrer le calvaire comme un trou noir, sans fond, sans limite, et oublier que derrière, il y a plus que ça, qu'il y a autre chose. Mais le diable fera tout pour nous montrer que le trou noir. Face à cette tentation-là, il n'y a pas de péché, les amis. Et je crois que c'est important de le dire. Ce n'est pas parce que vous êtes découragé. Ce n'est pas parce que vous avez des fois l'envie de dire « je veux lâcher » que vous péchez. Quel est le remède? Parce que c'est ça qui est important. Quel est le remède contre le découragement? Que ce soit pour Néhémie ou pour Jésus, je dirais le remède elle-même. La première chose, je dirais, prenez du recul. Ou prenez du repos. Si vous avez besoin de faire une pause, faites-la. Vous êtes des êtres humains. N'oubliez pas ça. Vous serez bien plus efficace lorsque vous vous remettrez au travail. Il y a des moments où il faut simplement aller dormir. Ou prendre un peu de vacances. J'ai souvent vu, particulièrement quand on était en mission et qu'on était enfermé sur certaines choses et qu'on tournait en rond, je disais, il vaut mieux qu'on parte quelques jours, se reposer pour pouvoir être renouvelé. Je pense à Élie. Élie qui vient d'affronter les faux prophètes de Baal, qui vient de vivre une grande délivrance de la part de Dieu, hein, où il va faire tomber la pluie, Élie. Il va permettre par sa prière que la pluie tombe. Mais derrière, il est complètement découragé. On le retrouve à demander la mort. Et à ce moment-là, je trouve ça tellement beau et tellement profondément bon de la part de Dieu, il va s'endormir sous un genêt. Dieu va le réveiller pour qu'il mange. Il va mettre sur une pierre chaude un gâteau et une cruche d'eau. Je trouve ça tellement attentionné. Il ne va pas lui citer un verset biblique, le Seigneur. Il va le faire dormir, lui donner à manger. Après avoir mangé, vous savez ce qu'il lui fait? Il le refait dormir. Il va se réendormir. Et derrière, après qu'il aura bien dormi, il va lui donner à manger pour que maintenant il puisse marcher. Il va marcher 40 jours. Il ne va pas lui dire « prie plus, lis plus ta Bible ». Et je crois que des fois, on veut être trop spirituel. Commençons par nous reposer quand nous sommes découragés. Profitez de ce repos pour vous réorganiser. Dans Néhémie 4, c'est à ce moment-là qu'il se réorganise. C'est le moment de dire, il faut peut-être que je change ma méthode. Et face à la menace d'une attaque, Néhémie va réorganiser ses équipes. Il va les mettre derrière la muraille, sur du terrain sec, par clan, avec leurs armes. Le but, c'est de défendre la ville. Donc, il n'y avait plus que la moitié des hommes qui travaillaient, l'autre moitié défendait. Et il y a des moments, on doit apprendre à se réorganiser. Peut-être en faire moins. Peut-être en mettre certains à l'abri, les pieds au sec, c'est intéressant, plutôt que les pieds dans la boue, sur un terrain ferme. derrière la muraille pour être protégé et pour mieux savoir protéger. Il y a des choses qu'on sait remettre en place. Quand Jésus, dans sa dernière semaine, si vous analysez sa dernière semaine, vous remarquez qu'il va régulièrement à Béthanie. Probablement qu'il passe une bonne partie de ses nuits de cette dernière semaine à Béthanie, chez ses amis Marthe, Marie et Lazare. C'est les probablement meilleurs amis qu'il ait à ce moment-là. Et quand il arrive 6 jours avant la Pâque, la première fois à Béthanie, on va lui préparer un grand festin. Il va retourner là-bas régulièrement dans cette semaine. Il a besoin de dormir correctement dans un lieu, je dirais, safe pour lui, où il est protégé. Marthe va avoir de quoi faire avec les casseroles pour préparer les repas. Marie va déverser du parfum sur lui. Dernier moment privilégié avec ses disciples. Il va pouvoir les emmener au jardin ensuite, au jardin de Gethsémané. Ils vont pouvoir combattre avec lui dans la prière. Voilà, il y a des moments où nous devons prendre du temps pour nous reposer, pour être dans ce lien avec le Seigneur, pour passer du temps tout simple, où on peut aussi partager notre souci, notre découragement, les uns avec les autres, avec des amis proches. Il n'y a pas de décision à chaud qu'on doit faire dans ces moments-là. Quand on est fatigué, on se repose, on partage, on se réorganise. C'est la première chose. Et après avoir fait ça, la deuxième chose que nous donne Néhémie, c'est chapitre 4, verset 8, avec 3 conseils fondamentaux. Au verset 7, il prend du recul. Au verset 8, il dit une chose pour moi qui est vraiment importante. « Je regardais, je me levais et je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Ne craignez pas. Ne craignez pas. C'est souvent la crainte qui mène au découragement. La peur d'une attaque fait dire au peuple que la construction de la muraille est impossible. Ne craignez pas, la crainte, elle paralyse, elle empêche de combattre et nous conduit à renoncer. La nuit où Jésus fut livré, la guerre spirituelle était intense, les amis. Parce qu'à Gethsémané, c'était une guerre spirituelle. Satan a jeté toutes ses forces pour le tenter, pour le décourager. Paul, il parle des flèches enflammées du diable. C'est dans Éphésiens 6, 16. Il nous envoie des flèches enflammées sur nous, qui s'abattent sur nous. Et les flèches enflammées du diable, sur Jésus, et souvent sur nous, c'est la même chose. C'était avant tout des pensées. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mourir pour eux? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mourir pour ces disciples qui ne sont même pas capables de veiller 1 heure avec moi en prière? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre ma vie pour ça? Est-ce que le plan de mon père va marcher? Ou ce genre de pensée, tu vas voir les clous qui rentrent dans tes mains, tes pieds, ça fait mal. Hein, t'es bien sûr que tu veux ça. C'est concret, la bataille spirituelle qui s'est passée. C'est juste concret. Il y a des pensées comme des flèches enflammées qui vous sublent. Et le but, c'est de nous focaliser sur la crainte, sur la peur, de nous hypnotiser. Hein, le diable est comme un lion rugissant. Il cherche déjà à nous faire peur. Il rugit pour mieux nous dévorer. Par le découragement et nous détourner de notre objectif. Alors ne pas le craindre, c'est choisir vraiment de se tourner vers Dieu plutôt que l'objet de nos peurs. C'est la troisième partie du remède. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, c'est le conseil de Néhémie. Se souvenir de ce qu'il a déjà fait dans le passé. Parce que Néhémie, il se souvient de comment le temps d'Esdras, bien avant, c'est un roi perse qui a donné un édit pour qu'il rentre reconstruire le temple. Il peut se souvenir de tout ce qui s'est passé dans la reconstruction du temple, jusqu'au maintenant, cette reconstruction des murailles. Dieu a tellement accompagné ce peuple depuis le retour de Babylone. C'est pas très vieux, c'est entre 50 et 70 ans. Ils ont le souvenir, ils ont la mémoire de ça. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Souvenez-vous comme il est intervenu. Quand nous sommes découragés, souvenez-vous de ce que Dieu a fait dans votre vie. Souvenez-vous de ses délivrances. Souvenez-vous comment il est intervenu. Rappelez-vous de ça. Ce sont des poteaux indicateurs dans votre vie. C'est comme ça que nous dirons « Il l'a fait, il le fera encore ». C'est se décentrer de moi, de mes peurs et de mes craintes, de tout ce qu'on veut. Car c'est lui qui décide. Et c'est lui qui est capable de me délivrer. Parce que si on cherche ses forces dans ses amis, ben comme Jésus a vu avec ses disciples, il va se retrouver tout seul. Nous, on a expérimenté souvent, je le dis souvent avec ma femme, avec Raymond, quand on discutait d'un sujet difficile, de constater que plus on en discute à un moment donné ensemble, quand on est les deux découragés, aucun n'arrive à aider l'autre et on se décourage mutuellement. On a pris l'habitude dans ces moments-là de s'arrêter et de prier. Et je vous assure, c'est vraiment une règle pratique qu'on s'est donnée. Oui, on arrête, on ne parle plus de ça, on va prier pour ça. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment-là. C'est, on sort de soi-même en fait. Parce que si on cherche en soi-même, la tâche apparaît au-delà de nos forces, comme Jésus à Gethsémané. J'ai pas la force. J'ai pas la force d'y aller seul. Il reste que le Père. Et il se tourne vers le Père. Jésus, au Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Voilà mon désir, voilà mon découragement. Je te la porte, mais que les choses se passent comme toi tu le veux et pas comme moi je le veux. Ainsi, il doit déjà dire oui à Dieu. Lui dire oui malgré la souffrance, malgré le doute, malgré sa volonté humaine, etc. C'est oui à Dieu. Je sais, je me souviens de qui tu es, de ce que tu as fait. Et c'est des oui qui sont dits par la foi, en fait. Des oui qui n'ont pas toutes les réponses. Et souvent derrière ce oui, on a un silence. Et Dieu répond pas à Jésus. Dieu est silencieux. Mais par contre, et c'est Luc qui nous apporte ce détail, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et j'aime bien ce détail. Dieu répond pas, il est silencieux, mais un ange vient. Il lui donne pas des grandes paroles, il le fortifie. Il va l'accompagner. Et cet ange pour nous, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être n'importe qui, que le Seigneur va envoyer, qu'on va même pas voir. C'est un messager de Dieu qui va venir fortifier. C'est l'amour silencieux de Dieu, j'aime dire. Un ange juste pour lui, un frère juste pour soi, pour donner la force et permettre d'aller jusqu'au bout. Rappelez-vous que Dieu va vous aider, ça c'est une promesse qui est indéfectible. Il peut vous délivrer de votre épreuve, ou il peut ne pas le faire. À Gethsémané, il n'a pas délivré l'épreuve de Gethsémané. Il a permis juste à Jésus d'aller au bout de cette épreuve, et d'en être délivré d'une autre manière que ce que Jésus aurait voulu au fond de lui. Par contre, il est prêt à nous sortir du découragement dans ces moments-là. Et la quatrième, la dernière partie du remède, c'est combattre. Avec Néhémie, après le temps de découragement, la réorganisation, le recul et tout ça, ce souvenir de Dieu, il est dit que lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Dieu a changé les plans des ennemis. À Gethsémané, malgré l'angoisse et le découragement, Jésus s'est trouvé en plein combat et a vu sa force renouvelée dans le combat. Dans Luc 22, 44, il est dit « Étant en agonie, il priait plus instamment ». Le mot « agonie », c'est un mot intéressant, il est utilisé une seule fois dans le Nouveau Testament et il signifie « lutter pour la victoire ». Par la force que Jésus a reçue juste avant par l'ange qui est venu le fortifier, il est capable, en agonie, de prier de manière plus instante, de manière plus forte. Je crois que Dieu peut nous donner la force de lutter pour la victoire. Je crois que véritablement Dieu peut nous donner la force de lutter pour la victoire. Souvent, nous les chrétiens, nous luttons contre les choses. Nous luttons contre les ennemis, contre si. On a un peu une mentalité d'assiégé. Dieu nous demande de lutter pour la victoire. Et de savoir que derrière ce qui nous décourage, il y a la victoire de Dieu, qui est possible. La victoire ne sera pas toujours comme on l'entend, comme on le pense. Priez jusqu'à la fin du combat. comme Jésus l'a fait, et avec la force que Dieu nous fait. Parce qu'on verra que quand Jésus sort de Gethsémané, le découragement est parti. Dieu ne le délivre pas de l'épreuve, mais le découragement l'a quitté, il n'est plus le même. On le voit face aux soldats qui viennent l'arrêter, il va leur dire, au Jean 18, 6, il va leur dire « c'est moi » quand ils viennent l'arrêter. Et à cette parole, les soldats reculèrent et tombèrent par terre. Le découragement a changé de camp. Résistez au découragement, retournez au combat, accrochez-vous, retournez à la muraille. À un moment donné, Dieu vous aura fortifié. Ça prendra du temps des fois. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais derrière ces quatre étapes du remède, prendre du recul, se reposer, ne pas craindre, se souvenir de Dieu, on peut retourner au combat parce que Dieu nous a fortifiés. Et pourquoi combattre ? Pourquoi combattre ? C'est parce que on peut voir plus loin, parce que Dieu veut déboucher notre horizon. Néhémie 4, verset 8, il dit « Vous allez combattre pour vos frères, pour vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Ce combat, ce n'est pas pour vous, pour votre gloriole. Ce combat, ce n'est pas contre les gens, mais c'est pour. C'est pour vos frères dans l'Église que vous allez combattre. C'est pour vos familles. C'est pour vos enfants qui ne suivent pas le Christ, qui sont dans une voie qui s'égare. C'est pour votre frère qui est dans la maladie. Vous allez combattre pour que le nom de Dieu puisse être respecté dans les générations suivantes, pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour que le nom de Dieu soit transmis à la génération qui vient. Quand j'en fais un combat personnel, je suis souvent seul et découragé. Quand j'en fais un combat pour le Seigneur, alors je vois l'horizon qui peut s'ouvrir. Parce que je ne lutte plus tout seul, je lutte pour quelque chose qui me dépasse totalement. Et Jésus peut retourner au combat et dire aux soldats qui viennent et qui le cherchent, « Oui, c'est moi. » Parce qu'il a les yeux fixés sur la suite cette fois. C'est plus simplement sur la mort. Il voit la gloire à venir qu'il attend de l'autre côté de la croix. Je termine en lisant ce texte d'Hébreux 12, 2. « Les yeux fixés sur Jésus, ça c'est notre horizon dans le découragement. Les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix. La tentation était là. Il a supporté la croix, méprisé la honte. Il n'a pas cédé à la tentation. Et il s'est assis, mais ça c'est venu bien plus tard, ça a pris du temps tout ça. Il avait ça en vue, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est mon encouragement pour chacun d'entre nous. Voyez plus loin, un jour nous serons assis aux côtés de Jésus, dans sa gloire. Et nous vivrons réellement la victoire qu'il veut donner dans nos vies. Amen. Merci Père. Merci Père parce que tu nous aides à combattre le découragement. Tu nous aides à prendre le temps qu'il faut pour nous reposer. Tu nous aides à tenir, à nous souvenir de qui tu es, à ne pas craindre. Tu nous aides à retourner au combat autant qu'il le faut. Alors merci pour ces temps où tu nous permets de nous reposer et d'être fortifiés par toi. Et quand nous sommes fortifiés, donne-nous la force de retourner, Seigneur. Pas par nos propres forces, mais parce que toi, tu procures la force dont nous avons besoin. Aide-nous à jamais perdre des yeux l'horizon que tu proposes, qui est Jésus lui-même. Sa vie, sa présence et la gloire de sa présence, la joie de sa présence dans nos vies, et qu'un jour sera totale et parfaite quand nous le rencontrerons, quand nous te rencontrerons. Merci Père. Merci Père pour ce que tu nous donnes comme horizon. Parce que cet horizon, c'est celui qui nous donne le courage de continuer. Amen.